La FRAMA, la Fédération des radios associatives du Maine-en-Joux, vous présente les rencontres de la presse écrite et des jeunes Nigériens.
En tant que lycéen, nous on lit beaucoup les journaux gratuits comme le 20 minutes et on voit que dans ces journaux il n'y a pas forcément une censure très importante et on a un regard différent maintenant sur la censure, mais c'est un thème qu'on avait beaucoup abordé en ECJS avec notre professeur.
Le 30 mars dernier, quelques 1200 lycéens des Pays de la Loire étaient réunis au Palais des Congrès du Mans pour la 5e édition des rencontres de la presse écrite et des jeunes Nigériens, une action éducative mise en place par la région des Pays de la Loire et le rectorat de Nantes. Développer un esprit ouvert et critique passe par une connaissance des médias et de la presse. 8 ateliers invitent des journalistes, experts, lycéens à débattre autour de sujets spécifiques et de leur traitement par la presse. La censure, dans une démocratie, quelle relation entre presse et pouvoir? Réponse avec les invités de Jean-Yves Breteau de Radio Alpa.
Dans une démocratie, quelle relation entre presse et pouvoir? Telle était la question posée à ces rencontres de la presse écrite et des jeunes Nigériens 2011 au Mans pour aborder la thématique de la censure. Alors Yacine, tu es élève en seconde au lycée Saint-Charles du Mans. Vous avez travaillé sur cette question-là. Quelle question justement vous pose les relations entre la presse et le pouvoir?
On a abordé ce thème dès le départ parce qu'il y avait une certaine importance aujourd'hui dans le monde médiatique et dans le monde... parce que médias et politique sont très liés. Donc la démocratie implique forcément le pouvoir par le peuple. Et ce mot censure venait remettre en question cette problématique.
En gros, est-ce que vous pensez que la presse a peur du pouvoir? Ou est-ce que c'est le pouvoir qui a peur de la presse?
C'est le pouvoir qui a peur de la presse. Parce qu'aujourd'hui, on appelle d'ailleurs la presse le quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, tout simplement parce que la presse a un rôle très important et un poids dans ce monde, surtout dans le monde démocratique, du fait qu'elle publie son information, qu'elle peut modeler, qu'elle peut modifier, implique forcément une
relation particulière et difficile.
Voilà.
Béatrice Houchard, vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Figaro. Tout d'abord, pourquoi les relations presse-pouvoir posent toujours question sur l'information?
Oh, je pense que c'est vieux comme
le monde.
Comme le monde, sans doute, mais c'est plus ça, c'est plutôt bien. Les relations sont toujours difficiles. Je pense que c'est plutôt bon signe que les relations soient difficiles finalement. Sinon, ça voudrait dire que l'un se couche devant l'autre et ce serait suspect. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes autour de la censure. On a l'impression que tous les soirs, un pouvoir mystérieux décroche son téléphone et dit aux journalistes « voilà ce que vous allez mettre dans vos pages demain ». Évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, heureusement. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je serais parti au service des sports. Ou d'ailleurs, il y a peut-être aussi des interventions entre les clubs de foot et les journalistes. Je crois que la censure, si on en parle, elle ne concerne pas que la politique. Bah, les hommes politiques, puisqu'on parle de voir les hommes politiques, ils ont envie qu'on parle d'eux, et ils ont envie qu'on parle d'eux en bien. Puisque, voilà, la plupart du temps, ils sont élus, ils ont envie d'être élus, ils ont envie de montrer leur face la plus avantageuse. Donc d'ailleurs, ça passe pas forcément par la censure, ça peut passer par des tentatives de faudrait qu'on parle de moi, faudrait que je donner une interview, ce serait bien de passer une photo. Ils sont très sensibles, on n'en a pas parlé dans le débat, mais on aurait pu le faire. Ils aimeraient bien, souvent ils disent, est-ce que vous pouvez me dire quelle photo vous passez demain? Donc, en général, on leur répond toujours, vous verrez demain matin, mais vous inquiétez pas, je suis de droite et de gauche, hein, ils se ressemblent beaucoup sur ce plan-là, les uns et les autres, hein, qu'ils soient au pouvoir ou non. Mais est-ce que c'est une photo où je suis à mon avantage? Est-ce que c'est une photo où on voit plutôt? Ils sont très sensibles à ça. On leur dit toujours non. Je précise que dans d'autres rubriques, on est un peu moins regardant, puisque par exemple, toutes les stars, y compris d'animateurs de télévision, fournissent leurs propres photos et on ne passe que les photos qu'ils veulent bien passer. Donc on est beaucoup plus sévère en fait avec les hommes politiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
En fait, la question la plus importante, c'est pas la relation que peuvent avoir la presse et le pouvoir, c'est surtout la question de l'impartialité du traitement de l'information. Elle est là, la question.
Oui, il n'a pas la partialité et puis la capacité de résistance aux pressions, puisque c'est plus des pressions que de la censure, en fait, ce qui se passe dans la vie quotidienne quand on est dans une rédaction. Donc après, il faut voir si soi-même et sa hiérarchie, puisque, moi, je suis pas directrice de la rédaction de mon journal et ni dans les journaux où j'ai travaillé auparavant. Il y a une hiérarchie. Alors c'est vrai que moi, j'ai connu les deux cas, hein, dans d'autres journaux. Il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui résistent pas. Et ça, les hommes politiques le savent. Ils savent très bien s'ils s'adressent à un tel qui va dire bah écoutez non désolé ça marche pas comme ça, et ceux qui vont avoir tendance à dire bon oui d'accord ça vous ennuie on va pas parler de ça, voilà. Ils le savent très bien, ils comprennent très bien le rapport de force.
En sorte, il faut savoir apprécier quelle distance dans les privilèges qu'on peut avoir avec le pouvoir. On parlait des off lors de cette assemblée, c'est-à-dire les confidences. Le journaliste doit avoir avec celui qui représente le pouvoir.
Alors les off, ils sont importants parce que souvent ils permettent de comprendre une situation. Ils permettent aux journalistes de mieux apprécier ce qui est en train de se passer. Je pense à ce qui se passe en ce moment au sein de l'UMP et le gouvernement. Là, la guerre des nerfs entre François Fillon et Jean-François Copé. C'est vrai qu'on a beaucoup de off qui nous racontent un petit peu. Alors c'est compliqué de parfois c'est un peu frustrant de dire ah tiens ça c'est dommage mais bon si on le raconte on va mettre en difficulté un tel qui est ministre, bon il faut coup par coup juger et parfois dire bon ça désolé c'est trop important pour qu'on le publie pas donc on le donne, voilà.
Fabrice Risoli, vous êtes expert du crime organisé, secrétaire général de l'Observatoire général des criminalités, représentant en France d'une ONG que vous pouvez nous présenter.
Oui, l'ONG c'est FLAIR Network. Donc FLAIR c'est Freedom Legality and Rights in Europe. Il s'agit donc du premier réseau européen associatif contre le crime organisé transnational. Hein, l'idée étant que les services répressifs font éventuellement leur travail, mais la société civile est totalement concernée par ce type de phénomène. Je vous donne un seul exemple. On peut lutter contre les mafias en Italie, le crime organisé en France, mais on peut aussi sensibiliser les jeunes femmes roumaines à ne pas accepter des contrats de travail à Chypre ou à Bruxelles, parce qu'elles peuvent tomber dans un... pour le moins un genre de prostitution. Donc cette ONG-là se met en réseau toutes les associations en Europe. Et là, nous avons ouvert un bureau à Paris depuis septembre, dont je suis votre humble serviteur.
Quand on représente le crime organisé, en tout cas quand on est un expert du crime organisé, est-ce que ça veut dire que le crime organisé peut toucher un journaliste ?
Ben oui. D'abord, le crime organisé, parce qu'il est organisé, particulièrement le crime mafieux, est en lien avec le pouvoir politique. Ils se rencontrent soit sur le terme électoral, soit sur le terme des affaires. En général, les deux sont liés. Pour être très très précis, la mafia participe à des campagnes électorales et en échange, quand l'homme politique est élu, il offre des appels d'offres aux sociétés de la mafia. Donc quand le journaliste a décidé de parler de ça, eh bien il est au mieux menacé selon ce qu'on appelle un code, qu'on appelle la violence programmée. Donc ça commence par des coups de téléphone, des projectiles dans une enveloppe, la voiture qui brûle, la tête de chien déposée sur le pas de la porte. Et puis après, on passe au meurtre. Et donc, dans des pays comme le Mexique, ce sont des centaines de journalistes qui sont assassinés. En Russie, en Italie, ce n'est que 9 plus les menaces. Et en France aussi, certains journalistes subissent des pressions.
Alors, on se souvient, pour le coup, de certains faits, par exemple, d'hommes politiques en France qui sont retrouvés suicidés. On sait que, quelquefois, la presse est empressée de comprendre si c'était véritablement un suicide ou tout simplement un crime. Comment on réagit quand on est face à cette question ? Bon, on peut citer certains ministres sous Giscard d'Estaing ou encore Pierre Bérégovoy, puisqu'il y a eu un soupçon.
Oui, il y a l'affaire Boulin et puis l'affaire Bérégovoy. Sur l'affaire Boulin, c'est vrai qu'il y a à nouveau des choses en ce moment, là, parce qu'il y a un bouquin, la famille qui relance. J'avoue que j'arrive pas à me faire une opinion. Sur Bérégovoy, à mon avis, c'est un suicide. Parce que contrairement à ce qui a pu être dit à une époque, beaucoup de gens qu'il côtoyait dans les jours qui ont précédé pensaient peut-être pas forcément qu'il irait jusque-là, mais racontaient des choses qui pouvaient laisser penser qu'effectivement, il était en tout cas très, très dépressif. Sur l'affaire Boulin, je crois que Fabrice en sait plus que moi. J'avoue que je n'ai pas spécialement enquêté sur cette affaire. Il y a un mystère sur cette affaire. Oui.
Fabrice Risoli, vite fait, sur cette question-là.
Non, je vous invite à rencontrer la famille Boulin le 4 avril à Paris, puisque nous organisons la première soirée des victimes du crime organisé, de la mobilisation, etc. Simplement, en France, les choses sont toujours plus compliquées. L'État est extrêmement présent. Donc, dans la famille Boulin, moi, je pense simplement qu'il faudrait faire triompher la justice, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été respectés. C'est tout. Après, peut-être que c'est un suicide, mais manifestement, la justice n'est pas passée comme il faut. Et c'est déjà un inconvénient pour lutter contre le crime organisé.
La censure pose la question de l'indépendance économique et politique. Est-ce qu'il existe des résistances au pouvoir politique quand on est journaliste ?
Est-ce qu'il existe des résistances au pouvoir politique ? Oui, heureusement, oui. Ouais. Oui, tout le temps, oui. On passe notre temps à leur dire non. Mais c'est des trucs tout bêtes. Ils appellent. J'ai envie de donner une interview là-dessus. Ah bon ? Alors, Parfois, on peut répondre oui aussi. Si quelqu'un, un politique, a une interview à donner, qui a des choses intéressantes à dire, percutantes, nouvelles, qui font avancer le débat, etc. Au contraire, on est tout à fait preneur. Si c'est quelqu'un qui veut faire la promotion de ce qu'il a dit la veille, on passe notre temps à leur dire non, oui.
Alors, il y a aussi toute la question de l'autocensure. Est-ce qu'à un moment, le journaliste se pose la question de la pertinence de publier, de ne pas publier, de dire, de ne pas dire, en fonction de l'opinion publique et sa capacité à recevoir une information ?
Alors, en politique, pas tellement par rapport à l'opinion publique, parce que le risque de désordre est mince sur des déclarations politiques. Bon, mais en revanche, on le disait tout à l'heure dans le débat, c'est vrai qu'un journaliste qui a un informateur privilégié qui lui raconte tout ce qui se passe dans les réunions du Parti Socialiste, pour prendre un exemple, ça pourrait être d'un autre parti politique, hein, qu'un informateur privilégié qui un jour lui dit quelque chose d'important, lui disant « mais ça, faut pas dire que c'est moi », etc., il va être tenté de faire de l'autocensure en disant « demain, j'ai encore besoin de cet informateur, donc je le grille pas, quoi, pour parler comme ça ».
Béatrice Louchat, vous avez dit quelque chose de très intéressant pendant cet échange, vous avez dit « la manipulation est plus courante que la censure ».
Bien sûr, la tentative de manipulation, bien sûr. La censure, honnêtement, la question ne m'a pas été posée, donc je n'ai pas répondu, mais les cas de censure en 35 ans, beaucoup de 35 ans de journalisme, hein, j'ai eu très très peu de cas de censure ou de tentatives de censure. En revanche, les tentatives de manipulation avec un homme politique qui vous raconte un événement et quand vous vérifiez, vous apercevez que ce qu'il vous a raconté est complètement faux, que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Oui, ça en revanche, mais ça c'est notre boulot, de vérifier les choses, de vérifier les informations et puis de ne pas tomber dans le panneau. Alors on peut de temps en temps tomber dans le panneau, hein, personne n'est parfait, on peut se planter, ça a dû m'arriver comme à tout le monde, mais enfin on peut être vigilant, essayer de ne pas tomber dans le panneau, mais bien sûr c'est surtout ça qui est fréquent, et les tentatives de pression pour qu'on ne parle pas de telle ou telle chose, beaucoup plus que la censure en tant que telle.
Pour conclure...
On est quand même dans un pays encore un peu libre malgré tous les problèmes, quand même.
Pour conclure, quelle que soit l'époque, est-ce que finalement, Fabrice Rizzoli, on peut échapper à la censure ? Non, est-ce qu'elle ne fait pas partie du quotidien de l'information ?
Mais elle peut faire partie du quotidien, mais rien ne nous empêche de lutter contre. Rien ne nous empêche d'être un public éclairé, de dire que tel ou tel journal appartient à tel groupe et que, par définition, par exemple, il ne traite pas tel sujet. C'est tout. On dit, ce journal ne traite pas tel sujet. Moi, je dis qu'en France, on ne traite pas les problèmes de corruption, on ne traite pas les problèmes de crime organisé. Et quel que soit, quand il y a un élu qui est... si vous voulez présumer coupable de quelque chose, on n'en parle pas quel que soit le parti politique. Vous voyez, ça ne fait pas une affaire retentissante. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Béatrice Souchard, sur cette question.
Je pense qu'on peut... comment dire ? Je ne le dirai pas de la même manière que Fabrice, mais je pense que d'une manière générale, il faut essayer de ne pas se laisser manipuler et qu'on peut garder et de l'indépendance dans sa tête et une bonne capacité de résistance.
On va finir avec toi, Yacine. La question de la censure, c'est une question qui vous importe, vous, quand vous êtes à la recherche d'informations. Est-ce que vous êtes sensible à ces questions-là ?
Je suis assez sensible du fait qu'aujourd'hui, on a besoin, les citoyens ont besoin d'être informés, d'avoir des informations qui sont vraies, qui sont véridiques, et non pas avoir affaire à des informations modifiées, modelées. Sachant qu'aujourd'hui, la politique, l'économie, tous ces thèmes se retrouvent présents dans les médias.
Voilà, on pourrait donc ouvrir un autre débat. Est-ce que l'information est vraie ? Est-ce qu'elle est vérifiée ? En tout cas, c'est pas l'objet de la censure. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à cet échange.
C'était La Censure, dans une démocratie, quelle relation entre presse et pouvoir ? Un plateau radio enregistré lors des rencontres de la presse écrite et des jeunes nigériens au Mans le 30 mars, animé par Jean-Yves Brotteau de Radio Alpa, à la technique et au montage Jean-Luc Lambert et Nathalie Lautin de Fréquence Oscillée, une émission produite par la FRAMA, Fédération des radios associatives du Maine-en-Joux.